Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous sommes entrés avec toute l'Église dans le temps du carême, temps de prière et de pénitence pour obtenir la conversion du cœur, nous allons passer à travers la méditation de ces saintes Écritures, du jardin originel, le jardin d'Éden, jusqu'au désert, alors que notre espérance, réalisant la prophétie du prophète Isaïe, est que ce désert, de nouveau, fleurisse. Les Saintes Écritures, ce matin, s'ouvrent par le commencement, celui par lequel l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si dans le récit de création, le bon Dieu crée tout à partir de rien, pour façonner l'homme, il se pencha et prit le limon de la terre pour que nous nous souvenions que nous sommes enracinés sur cette terre. Naturellement, nous sommes enracinés de par nos familles dans cette terre. Mais notre station debout, disent les pères de l'Église, montre que nous tendons déjà à une réalité surnaturelle, le ciel, la vie éternelle en paradis. L'homme et la femme, dans cette complémentarité qui engendre la vie, ressemblent à Dieu. Comme je vous le disais au mercredi des cendres, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu, de telle sorte que la conversion que nous recherchons en ce temps du carême, c'est ce retour à Dieu. Et si nous devons retourner à Dieu, c'est que le péché et son règne de mort nous en détournent. Adam et Ève, nos premiers parents, aurait pu être salué avec les mêmes mots qu'utilise l'archange Gabriel pour saluer Notre-Dame, l'Ève nouvelle. Le Seigneur est avec vous. Sous-entendu, le Seigneur est avec vous comme il n'est avec aucune autre créature. Car le bon Dieu descend dans le jardin. Non seulement il connaît Adam et Ève, mais Adam et Ève le connaissent, fréquentent le bon Dieu, comme nous le fréquentons dans la prière. Ils connaissent le bon Dieu, sa loi, et contemplent dans ce jardin de délices la création de Dieu. Nous avons entendu le roi David dans le psaume nous dire « Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche annoncera ta louange ». Voilà même la vocation d'Adam et Ève, ouvrir la bouche pour nommer les animaux, donner un nom à cette création divine, mais surtout opérer dans leur âme la louange de cette seigneurie de Dieu manifestée par les deux arbres du jardin. L'arbre dont nous dit saint Augustin que l'on appellera après le péché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre dont le fruit est défendu, nous verrons pourquoi, et l'arbre de vie. Ces deux arbres placés dans le jardin avec la loi donnée par Dieu, il ne faut pas manger des arbres de ce fruit. Ce n'est pas l'incarnation de la tentation dans le jardin. Regardez, est-ce que vous allez être assez docile? Le bon Dieu n'agit pas ainsi avec nous. C'est le regard de Ève sur ces arbres qui va changer et le nôtre avec. Ces arbres ne sont pas la provocation. Ces arbres sont comme l'étendard de Dieu, qui manifeste que si Adam et Ève sont les dépositaires de cette œuvre de création, ils n'en sont pas les propriétaires. Il y a le règne de Dieu, la seigneurie de Dieu. Adam et Ève, nos premiers parents, sont comme nous, placés sous le régime de la foi. La foi, c'est croire en Dieu. Cette foi, c'est la confiance que Adam et Ève placent en Dieu, leur Créateur. Un Dieu qui ne leur est pas étranger, un Dieu qui est bien présent de par cette création, un Dieu qui est bien présent à leur côté. Le Seigneur est avec vous, pourrait leur dire l'archange Gabriel, comme il naît avec une autre créature. Et il n'y a rien dans l'âme d'Adam et Ève qui est un frein à cette louange de Dieu, à ce règne de Dieu. Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, sont comme lui, des créatures surnaturelles libres. Cette liberté fait que l'on ressemble à Dieu. Pourquoi ? Parce que la liberté est la condition même de l'amour. Si nous venons de Dieu, si nous retournons à Dieu, si toute la création est marquée par cette bonté de Dieu, eh bien voilà que toute cette œuvre qui nous concerne, car elle a été créée pour nous, va également en pâtir de notre péché. Le regard de Ève va changer lorsque le tentateur, dans la symbolique des Saintes Écritures, sous la forme du serpent, vient s'adresser à Ève. Ève est parfaitement armée, si l'on peut dire, pour affronter le tentateur. Elle connaît le bon Dieu. Elle a placé sa confiance en lui. Elle connaît la loi même de Dieu. D'ailleurs, comme le Seigneur dans ses tentations, elle va pouvoir répondre au démon en lui citant la loi même. Voyons comment agit le tentateur pour nous en méfier. Il arrive, rusé, s'exclamant « Oh ! Il ne vous est pas permis de manger de tous les arbres du jardin. Zut ! » Ève répond en citant la loi. Il nous est permis de manger de tous les arbres du jardin, sauf des deux arbres, symbolisant, nous l'aurons compris, la seigneurie de Dieu, l'étendard de Dieu. Alors, Ève va entrer en discussion avec le démon. Ce que le Seigneur Jésus, plusieurs fois dans l'Évangile, ne fait pas pour nous donner l'exemple qu'il ne faut pas discuter avec le tentateur. Le tentateur, dont notre Seigneur Jésus le Christ appelle le père du mensonge, homicide dès l'origine, va se jouer de la vérité pour parvenir à ses fins. Si vous mangez de ce fruit, alors vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux, connaissant et le bien et le mal. Être comme des dieux, mais Adam et Ève sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les Saintes Écritures, parfois, appellent les fils d'Adam, que nous sommes, des dieux. Connaître le bien, le pratiquer, mais Adam et Ève, dans ce jardin, ne connaissent et ne pratiquent que le bien. Leurs yeux sont ouverts sur la création qui les entoure. Mais voilà où veut parvenir le démon. Vous connaîtrez le mal. Voilà comment, nous dit saint Paul dans la seconde épître, la mort est entrée dans le monde. La mort est la conséquence du péché. Alors que Adam et Ève sont chassés de ce jardin, et que ce jardin, nous le retrouvons dans les Saintes Écritures ce matin, comme le désert, nous entendons le commencement de l'Évangile nous dire, drôle d'idée que celle du Saint-Esprit, qui aussitôt que le Seigneur Jésus est baptisé, il est poussé au désert pour affronter le diable. Effectivement, le proto-évangile, le tout premier évangile est à chercher peu après les punitions divines infligées à nos premiers parents. Non seulement le règne de mort, le règne de douleur, mais l'espérance de la vie du monde à venir. Dans la descendance de la femme, une d'entre elles écrasera la tête du serpent, figurant, nous l'avons compris, le mal. C'est la bienheureuse Vierge Marie, la nouvelle Ève. Si Ève est tirée d'Adam au commencement, Pour l'ordre de la rédemption, c'est l'effet inverse qu'il se produit. Le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus le Christ, qui devient homme tout en demeurant Dieu, reçoit cette humanité de la bienheureuse Vierge Marie. Le nouvel Adam est tiré de la nouvelle Ève. Ce nouvel Adam apparut sur les bords du Jourdain, nous disent les Saintes Écritures. La symbolique est forte dans les Saintes Écritures, car le Jourdain, frontière naturelle qui permet d'entrer en terre promise, cette frontière naturelle se jette dans une mer, 426 mètres en dessous de celle des océans, une mer que l'on appelle morte. Entrer dans les eaux du Jourdain, du temps du baptême de Jean, c'est recevoir cette eau symboliquement alors que l'on entre dans le Jourdain. Entrer dans le Jourdain, c'est donc reconnaître que l'on est pécheur. Et cette eau qui passe, qui court, elle part dans une mer qui est la mer morte parce que le péché nous conduit à la mort. On entre dans le Jourdain. Jean, qui a attisé les cœurs et les âmes par sa prédication du regret sincère des fautes, prend cette eau pour en laver symboliquement le pécheur. Mais il sait qu'il viendra après lui, qui sera plus grand, plus fort que lui, celui qui va venir baptiser, mais dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors, le pénitent qui a reconnu ses péchés, qui a reçu cette eau, sort de l'autre rive et retourne alors vers Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus paraît sur les bords du Jourdain, son parent, le Baptiste, le reconnaît. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et voilà que notre Seigneur, n'agissant pas à nos manières, demande à Jean de recevoir lui aussi le baptême. Jean refuse, nous l'avons entendu au jour du baptême. Ce n'est pas à Jean de baptiser le Christ, c'est au Christ de baptiser Jean. C'est dans l'ordre des choses. Et pourtant, le Christ veut entrer dans le Jourdain. Entrer dans le Jourdain, je vous disais, c'est être reconnu pécheur. C'est la raison pour laquelle Jean ne veut pas qu'il entre dans l'eau, car il est sans péché. L'agneau envoyé par Dieu qui vient enlever le péché du monde. L'agneau qui sera sacrifié sur le bois de la croix pour le pardon de nos fautes, pour nous délivrer de la mort et du mal. Pourtant, le Christ entre dans le Jourdain, et comme l'a affirmé saint Paul dans une de ses épîtres, le Christ, Dieu, l'a fait pécher pour nous. Non pas que le Christ ait commis un péché, mais en entrant dans le Jourdain, lui qui est l'agneau de Dieu, il prend symboliquement sur lui tous nos péchés. Alors, comme dit l'évangéliste, il remonte des eaux du Jourdain. C'est déjà l'image de sa résurrection. C'est déjà tout le combat du Christ qui est mené dans le Jourdain. Pourtant, l'Esprit Saint, aussitôt après ce baptême, le ciel s'est ouvert, le Père a reconnu qu'il est bien le Fils, son envoyé, et l'Esprit Saint repose sur lui. Il est envoyé dans le désert, il vient vaincre nos péchés. Maintenant, il doit venir vaincre ce qui mène au péché et la tentation. Et donc, le tentateur, nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden, car l'harmonie divine est comme rompue. Nous sommes dans le désert de la soif et de la faim, le désert qui symbolise le combat de Dieu. Nous sommes, nous qui sommes le nouvel Israël, l'Église du bon Dieu, ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui voit se lever l'admirable lumière du Seigneur mort et ressuscité. Le désert est donc le lieu du combat. C'est l'image de ce carême, notre entraînement au combat spirituel, revenir vers Dieu, rétablir notre rythme de prière, rétablir notre rythme de confession, préparer ardemment cette confession pascale où le Seigneur nous passera au crible de son amour et nous fera miséricorde. Voilà pourquoi le Christ, dans le désert, va affronter le tentateur. Et pour toutes les fois où nous nous laissons vaincre par les tentations, voilà que le Christ, pour nous, en est vainqueur. Pour toutes les fois où le démon cherche à nous perdre, voilà, eh bien, que le Christ a remporté pour nous la victoire. Nous n'oublions pas, en méditant les Saintes Écritures ce matin, que ce temps du carême est comme le symbole même de toute notre vie. Perdus dans le désert de ce monde, nous y rencontrons le bon Dieu qui vient mener en agneau le combat pour nos péchés. Et ce combat, il le remportera sur l'arbre de vie, qu'est le bois de la croix. Comme le désert, dans lequel il n'y a plus aucune nature luxuriante, l'arbre de la croix n'a plus de feuillage. Elle accueille le bon Dieu qui est comme le fruit identifié au péché qui est rendu à l'arbre. Alors le Christ peut nous dire « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Alors laissons-nous attirer, non pas tant dans le désert, non pas tant vers le tentateur, laissons-nous attirer par le Christ, car il est l'agneau qui remporte pour nous le combat et qui pourra nous donner au dernier jour, si telle est sa volonté, la couronne impérissable, nous disant, comme dans sa parabole, « Entrez maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de votre maître. » Et pour conclure, alors que nous sommes passés du jardin d'Éden au désert de ce monde, le prophète Isaïe entrevoit que le désert va refleurir. Alors, fort de cette espérance, nous entendons saint Augustin qui a guidé le mercredi des cendres nous dire « Si le bon Dieu ne te trouve pas parmi les vainqueurs, qu'il te trouve au moins parmi les combattants, puisse la bienheureuse Vierge Marie nous prendre par la main pour nous conduire à son Fils, nous protéger et nous bénir. Ainsi soit-il. »